Eh bien, bonjour une nouvelle fois à l'Institut des Libertés. Les deux anciens commissaires de police que nous sommes, mon collègue Patrick Ivars et moi-même, pour une fois, nous allons reprendre un peu de métier et nous relancer dans une enquête policière. On en a l'habitude, c'est quelque chose qui nous a passionnés, c'est quelque chose qu'on maîtrise bien. Et pour une fois, eh bien, on va traiter d'un dossier policier, d'une enquête policière. Nous avons interpellé un individu qui s'appelle Frédéric Rouvillois, qui paraît-il universitaire de son état et qui s'est essayé au polar, au roman policier, et on a envie de lui poser quelques questions auxquelles j'espère il va y répondre le plus ouvertement possible.
Pour les menottes, on fait comment? C'est comme ça?
On ne va pas vous signifier vos droits, mais on va vous poser quelques questions. Du style, que faisiez-vous fin juin vers 7h du matin près du Square Montholon?
Eh bien, d'abord, c'est tout près de chez moi, donc c'était une hypothèse relativement plausible. Mais je regardais effectivement les gens courir autour de ce Square Montholon, qui est un lieu très particulier. D'abord, c'est un des seuls espaces verts du 9e arrondissement, qui est très pauvre en espaces verts. Un espace vert qui est assez mal famé, hein, généralement, et qui l'est finalement depuis toujours, puisque... j'ai découvert en écrivant ce petit bouquin que ça avait été autrefois les jardins de l'hôtel particulier de Sanson, enfin la famille Sanson, qui était la famille des bourreaux officiels. Hein, ce sont eux qui ont guillotiné ou d'abord tranché la tête d'une bonne partie des criminels du 16e jusqu'au 19e siècle. Et donc, ils avaient leur jardin dans ce square, dans ce square Montholon. Je reviens à ma propre aventure. Donc, à 7h du matin, je vois des gens qui courent autour du square Montholon, des messieurs qui courent après les demoiselles, etc. Je les vois qui s'arrêtent et qui trouvent un cadavre, pour l'instant non identifié, mais voilà, tout le jeu va être effectivement de savoir qui est ce monsieur, ce gros monsieur dans ce costume de luxe, avec la gorge tranchée et un truc bizarre sur le front, et qui a commis cet acte abominable ou salutaire, on verra.
C'est donc le départ d'une enquête policière minutieuse. On est très surpris de voir un universitaire de renom engagé par ailleurs dans d'autres combats que celui de la littérature, qui s'adonne à cette écriture particulière qu'est le roman policier. On l'a lu avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'intérêt. On y a retrouvé... on a été fort surpris de voir que quelqu'un qui est totalement néophyte en la matière, ne connaît pas du tout, vous n'avez pas de parents dans la police, vous n'avez vous-même pas été souvent mis en garde à vue, en tous les cas, pas pour des faits de grande criminalité, et de voir que vous déroulez toute une intrigue policière avec beaucoup de brio, beaucoup d'intelligence, mais on s'est quand même posé la question, on s'est dit, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Je pense que mon collègue va mieux disséquer plus en profondeur que moi ce livre.
Ouais, alors, monsieur le professeur, il faudra pour ça enlever vos lacets, votre cravate, me donner vos lunettes, et puis on vous notifiera vos droits qui se rattachent à votre placement en garde à vue, parce que vous êtes quand même le principal suspect dans cette affaire, hein, faut bien reconnaître. Hein. Un mauvais maître, voilà. On se demande si c'est pas un petit peu un livre un peu autobiographique. Je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt, votre roman policier. Au début, je me suis dit, bon, ben allez, un roman policier, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, parce qu'il y a le cadavre, dès les premières pages, on tombe, ça y est, on trébuche sur le cadavre, et on se dit forcément, mais qui l'a assassiné? On cherche. On se doute bien que l'auteur, ben, c'est l'un des personnages dont on parle dans votre roman, qui est... Alors, je vais vous faire un grand compliment, je pense, parce que votre roman, ça m'a fait penser au roman d'Agatha Christie. C'est-à-dire qu'on est dans un microcosme. On est dans un petit monde de gens bien élevés, qui ont de l'éducation, qui sont d'un milieu social élevé. Et ces gens-là, il y en a une petite dizaine, et on se dit que l'assassin que l'on cherche... C'est probablement l'un de ces personnages-là. Ça m'a fait penser au roman d'Agatha Christie. C'est lequel? Et puis, il y a des fausses pistes. Comme dans toutes les enquêtes, il y a des fausses pistes. C'est-à-dire que l'auteur que vous êtes nous oriente sur Ah, peut-être l'un. Et puis après, ah ben non, peut-être l'autre. Et puis après, c'est la fin du livre. On se dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Et là, on n'est plus dans les romans d'Agatha Christie. On est dans les 5 dernières minutes. Vous savez, les émissions qui passaient à la télévision, les enquêtes du commissaire, c'est le Bourrel. Commissaire Bourrel. Mais bon sang, mais c'est bien sûr. Et puis, tout à la fin du film, on découvrait qui était l'auteur. Et c'est un petit peu ce que j'ai ressenti en lisant votre roman. Je me suis dit, tiens, j'aurais dû y penser plus tôt. On va pas dire ce qu'il en est. On va laisser au lecteur le plaisir de découvrir dans cette enquête qui est l'auteur de ce crime terrible. Mais j'ai eu du plaisir à le lire. Maintenant, ça c'était pour le côté compliment.
Après, oui, je m'attends au pire.
Non, je commence par le compliment.
Oui, je sais.
Après, il y a un côté qui est très différent, c'est que le professeur de droit que vous êtes, c'est complètement libéré de toute procédure pénale. Et ça, dans un sens, c'est formidable aussi, parce que c'est le rêve de tout policier, faire une enquête en se libérant des contraintes lourdes de la procédure pénale.
Pour tout vous dire, je suis professeur de droit constitutionnel et pas de droit pénal.
Hein, c'est
donc,
ça.
Voilà. Par conséquent, je me suis effectivement donné la permission d'échapper à la norme et à ses contraintes.
Complètement, bien sûr. Maintenant, j'ai une question à vous poser. J'aimerais savoir qui est ce mauvais maître et quelle est la part de vous, de votre personnalité dans les personnages du roman, parce qu'on a l'impression que c'est pratiquement autobiographique. Alors, vous êtes qui dans le livre ?
Je suis personne, à la rigueur, je serais peut-être Loman, le commissaire de police un peu enveloppé et qui aime bien fumer des cigarillos tout en grignotant des croissants. Mais je ne suis pas vraiment l'un des personnages. En revanche, je connais, j'ai croisé à peu près tous les personnages qui sont dans le livre, même si évidemment j'ai mélangé les individus qui s'y trouvent. Il n'y a pas un personnage qui est totalement décrit dans ce livre, ou peut-être un seul, mais bon voilà, qui se reconnaîtra peut-être lui-même, mais qui ne rigolera pas parce qu'il n'a pas beaucoup d'humour. Mais voilà, si je puis dire. Tout ce qui est dans le livre, c'est sauf le crime lui-même, si
tout
vous voulez,
vrai.
Tout est vrai. Tout est vrai et tout est, en un sens, tout est atroce et bien plus encore que le crime, dans la mesure où ce sont finalement des histoires de crocs en jambes, de trahison permanente, de jalousie, de méfiance, de domination, de pervers narcissique, toutes ces choses-là. Qui sont présentes dans le monde en général, le sont notamment dans le monde de l'université et notamment dans le monde des facs de droit, et je dirais avec une acuité renforcée du fait, notamment comme vous le disiez tout à l'heure, de l'intelligence, des capacités intellectuelles, de la culture des personnes en question. Voilà. Ce que j'ai voulu montrer, c'est que c'est pas parce qu'on était extrêmement intelligent, brillant, etc., et créatif, qu'on est forcément quelqu'un de bien. Je dirais pas au contraire. Mais voilà, ce sont deux choses qui sont totalement différentes. Et la victime, qui est en vérité un salaud absolu, à beaucoup d'égards, a bien mérité ce qui lui arrive. Hein. Je crois que c'est ça que j'ai voulu montrer, c'est le fait que voilà, on peut très bien être remarquablement brillant et intelligent sans pour autant être quelqu'un de bien. Et le mauvais maître que je décris, c'est l'archétype de tout ça.
Vous décrivez un univers impitoyable. Hein. C'est totalement pas Dallas, mais presque.
Alors,
hein.
Dans lequel, attendez, je dis pas que tout le monde y est mauvais et tout le monde y est pourri. Hein. C'est pas comme la Sodome de la Bible dans lequel il n'y a pas un seul juste. Il y a des justes et bien même plus, sans doute plus que des injustes. Je pense qu'il y a plus de bons maîtres. Ou de maîtres corrects, si vous voulez, que de mauvais maîtres. Mais les mauvais maîtres existent. Et comme dans un panier de fruits, voilà, le fruit pourri, parfois, suffit à gâter tout ce qui l'environne.
On comprend mieux quand même, quelque part. C'est d'une grande habileté. On peut le dire, parce que Ésope et La Fontaine prenaient le biais des fables pour raconter quelques vérités, pour énoncer quelques vérités. Il semblerait que le professeur de droit que vous êtes a choisi le roman policier pour quelque part, avec beaucoup d'habileté, je trouve, hein, dénoncer un monde qu'il connaît parfaitement.
Ah oui, oui, bien sûr. C'est du reste. Plusieurs des personnages avec j'ai beaucoup d'amis professeurs de droit et avec eux on parle évidemment de ces gens, de ces collègues éminents et de plusieurs d'entre eux on se disait entre nous que ce seraient des personnages de roman. Et voilà, donc j'ai voulu passer finalement de la théorie à la pratique, ce sera un personnage de roman. Et encore, je ne connaissais pas l'un des mauvais maîtres les plus emblématiques finalement de notre temps, qui est Olivier Duhamel finalement.
On sent qu'en filigrane quelque part il y a ça. C'est pour ça que je vous dis c'est très habile. Je trouve que peut-être que d'ailleurs ça va être un commencement. Vous allez peut-être continuer dans ce domaine.
Oui, j'en ai un.
Je trouve que c'est
un deuxième sous le coude.
Je me répète, c'est très habile. Bah, écoutez, je trouve ça très habile.
En tout cas, c'est un livre qui m'a. Je me suis beaucoup amusé en l'écrivant. Et voilà, je crois avoir effectivement piqué là où ça fait mal, dans certains cas, dans le cas de certains de ces mauvais maîtres qui sont malheureusement si puissants dans le cadre de ces universités françaises.
À l'adresse de nos auditeurs et des futurs lecteurs, ne tombons pas dans le piège. C'est un véritable réquisitoire à l'adresse d'un certain monde par le biais d'un roman policier. Et je trouve ça, je me répète encore une fois, très habile.
Écoutez, merci. En fait, si je puis parler de moi, mais j'ai écrit pas mal de bouquins, j'ai écrit une quarantaine de livres, et au fond, qui sont tous des livres politiques, même lorsque je parle, par exemple, j'ai écrit une histoire du snobisme ou une histoire de la politesse, qui sont aussi finalement des livres politiques, parce que le snobisme, la politesse ou les best-sellers ou l'utopie, ce sont des questions qui sont des questions très directement politiques. Et finalement, Un mauvais maître, c'est aussi un livre politique. C'est peut-être pour ça que la nouvelle librairie a accepté aussi rapidement de m'éditer.
Voilà. C'est bon. Ça, je vous dis à l'adresse des auditeurs et des futurs lecteurs que personne ne s'y trompe. C'est un livre puissant. Vous parliez de la politesse. Je crois que c'est Barbet d'Aurevilly, ce poète normand, qui disait lorsque la politesse existait, on pouvait se permettre l'impertinence. Je crois que c'est lui qui a inventé le personnage du dandy, d'ailleurs. J'aime beaucoup ce personnage de Barbet d'Aurevilly qui disait que au XXe siècle, la poésie sera une science ou elle ne sera pas. Manque de bol, il me semble bien que ça ne soit pas réalisé. Donc, bien évidemment, avec mon collègue, il n'est pas question pour nous de raconter l'histoire. Mais je le répète encore une fois, on a été très surpris, à travers cette trame policière, de découvrir un monde impitoyable.
Oui, il y a vraiment des... Si vous voulez, le impitoyable dans la mesure où, comme je vous disais, ce sont souvent des gens très brillants, qui occupent des places importantes, mais qui, occupant ces places importantes, sont très souvent dans un état de frustration complet. Dans la mesure où, c'est une question qu'on m'a déjà posée, mais un professeur d'université, en tant que tel, il n'a finalement aucun pouvoir. Il est obligé, théoriquement il bénéficie d'une indépendance qui a même une valeur constitutionnelle, nous dit-on, mais il est à beaucoup d'égards pieds et poings liés et il se retrouve dans une situation finalement de médiocrité sociale, économique, il gagne pas beaucoup d'argent, il est maintenant de plus en plus mal considéré, je vous dis même pas ce qui se passe actuellement avec le passage du présentiel au distanciel, comme on dit, qui crée une espèce de rapport d'horizontalité plutôt de verticalité dans la transmission qui a des conséquences absolument catastrophiques à beaucoup d'égards dans le rapport entre le maître entre guillemets et son élève. Voilà, le prof, notamment le prof de droit, c'est quelqu'un qui a toujours été le premier de la classe, qui a souvent méprisé ou regardé avec dédain ses petits camarades qui allaient devenir avocats, par exemple, et qui, 10 ans ou 20 ans plus tard, s'aperçoit que les petits camarades en question, ils ont fait fortune, ils roulent dans des grosses voitures, ils ont des belles maisons, ils ont des résidences à la campagne ou à l'étranger, tandis que lui, bah, il est toujours avec son traitement de prof d'université, qui fait à peu près deux fois suite d'un instituteur, ce qui est pas mal en soi, mais bon, c'est quand même pas... les profs de droit ont perdu 90% de leur pouvoir d'achat par rapport au début du XXe siècle. Voyons, là, pour vous situer un petit peu le truc. Et donc voilà. Et le résultat, c'est que assez souvent, malheureusement, eh bien, ces gens vont essayer de se rattraper ailleurs et parfois vont se rattraper sur le dos de leurs élèves, le dos de leurs thésards, de leurs doctorants, le dos de leurs collègues. Ils vont faire des pieds et des mains pour obtenir une espèce de micro-pouvoir au sein de l'université, tout en ayant bien conscience que c'est un micro-pouvoir qui est assez dérisoire. Ou alors, quand ils ont des relations, quand ils ont des connexions diverses, ils vont essayer de faire de la politique, entrer au gouvernement, comme mon collègue Blanquer, hein, et d'autres. Voilà. Mais c'est une situation qui est au fond très extrêmement intéressante sur un plan un peu à la fois sociologique et au fond psychologique, si vous voulez. Hein, et c'est ce dont j'ai essayé de rendre compte dans ce livre. Voilà la situation très paradoxale au fond de ces maîtres qui ne sont plus grand chose et qui essaient de se rattraper autrement.
Pour aller dans votre sens, je pense que votre roman policier peut se lire de deux manières différentes. On peut le voir comme un livre policier, un roman policier, une enquête, et puis il y a un cadavre et qui est l'assassin. Ok, d'accord. Et puis la deuxième manière de lire, c'est ce que vous êtes en train de développer. La deuxième manière de lire votre roman, c'est une critique acerbe d'un petit monde qui est celui des professeurs d'université, des professeurs de droit. J'ai envie de vous demander si vos collègues professeurs ont lu votre roman et si oui, qu'est-ce qu'ils en ont pensé ?
Écoutez, ceux à qui je l'ai passé l'ont lu avec beaucoup de plaisir et en applaudissant.
Ils ne se sont pas reconnus dans le livre ?
Non, ils ne se sont pas reconnus, mais ils ont reconnu des gens qu'ils connaissent, en revanche. Comme je vous disais tout à l'heure, voilà, c'est un petit monde dans lequel il y a quelques mauvais maîtres, beaucoup de bons ou de très bons. En revanche, comme ceux à qui j'ai dédié le livre, et notamment un ami très cher qui était un tellement bon maître que on l'a révoqué. C'est Jean-Luc Coronel de Boissaison, vous savez, qui avait défendu la fac de Montpellier contre des hordes de grévistes qui occupaient l'université et qui est en train de la transformer en une espèce les mots me manquent pour le décrire, voilà, et qui est accusé d'avoir utilisé la force de manière extrêmement modérée d'ailleurs pour chasser ces intrus, avec comme conséquence qu'il a donc j'espère que les instances d'appel ou le juge administratif reviendra sur cette décision, mais pour l'instant, donc, il est révoqué l'université pour avoir protégé l'université, pour l'avoir trop aimé, pour avoir pris trop au sérieux finalement sa mission d'universitaire, c'est-à-dire à la fois de chercheur, de transmetteur du savoir et des traditions.
C'est un monde un petit peu qui disparaît, on a le sentiment. Et dans votre roman, vous, à un moment donné, vous faites référence à un autre monde qui est disparu ou qui a disparu, c'est celui un peu de la monarchie. Et à un moment donné, vous nous parlez des survivantistes qui ne sont pas les survivalistes, voilà, contrairement absolument. À ce que croit le commissaire Lohmann à un moment donné. Oui. Donc, pouvez-vous nous dire qui sont les survivantistes ?
Alors, les survivantistes, c'est une des sous-branches, si j'ose dire, de l'arbre politique royaliste. Il y a une branche principale qui est ceux qui sont fidèles aux Orléans, on va dire, et notamment actuellement donc au prince Jean d'Orléans, le comte de Paris, dont je suis. Il y a une autre branche plus étroite qui est ce qu'on appelle les légitimistes, voilà, qui sont donc qui considèrent que finalement les traités signés au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, par lesquels la branche espagnole de la famille de Bourbon avait renoncé au trône de France, ne sont pas valides et par conséquent, les descendants de ces Bourbons peuvent légitimement prétendre au trône de France. Et enfin, il y a une troisième branche et une sous-branche que j'ai inventée pour l'occasion. La troisième branche, c'est les survivantistes qui pensent que Louis XVI meurt effectivement sur l'échafaud le 21 janvier. Son fils, qui est alors emprisonné au temple, devient immédiatement Louis XVII. Le roi est mort, vive le roi. Et le fils en question aurait été, si je veux dire, exfiltré par des agents royalistes et voilà placé quelque part et la branche principale on va dire des survivantistes c'est-à-dire ceux qui pensent que Louis XVII a survécu au temple hein, c'est le survivant sont ce qu'on appelle les non-dorfistes, c'est-à-dire ceux qui pensent que Louis XVII n'est autre que un horloger prussien qui s'appelait Nondorf, donc, et qui s'est fait connaître dans les années 1820 en revendiquant pour lui donc la, voilà, son ascendance royale. C'est un groupe qui est relativement relativement important. Il y a quelques centaines, peut-être quelques milliers de personnes, en tout cas, qui ont adhéré à ça. Mais parmi ceux qui y ont cru, il y avait notamment Léon Blois. On parlait tout à l'heure de Barbé d'Aurevilly. Léon Blois, c'est l'autre géant, finalement, de la littérature monarchiste et catholique de la fin du 19e siècle. Et Léon Blois, donc, il est persuadé qu'effectivement, Nondorf était le descendant de Louis XVI et que, par conséquent, ses successeurs étaient légitimement les prétendants au trône de France. Et alors, moi, j'invente une autre branche, une sous-branche encore, qui serait les étiennistes, donc, qui seraient les descendants d'un jeune Normand qui s'appelle Étienne le Duc et qui aurait donc prétendu lui aussi être le fils de Louis XVI.
Et qui est serrurier.
Qui est serrurier, c'est ça.
Qui est serrurier.
Et donc voilà, j'ai un peu de gag autour de ça.
C'est ça.
Le duc, parce que il vit en Normandie, et le duc de Normandie, c'est précisément le titre de Louis XVII. Et par ailleurs, il est serrurier, comme était Louis XVI. Et donc voilà, c'est pour ça que les survivantistes étiennistes que j'ai inventés dans ce livre, donc, expliquent que de toute évidence, c'est lui qui est le véritable descendant. Et donc, ces survivantistes étiennistes m'intéressent surtout pour montrer à quel point la victime, donc qui est en fait le héros noir en quelque sorte du livre, donc François Dénard, a été dans ses jeunes années survivantiste, donc étienniste, le promoteur de ces survivantistes, et comment finalement un beau jour il a jeté tout ça aux orties pour aller vers ce que notre ministre actuel appellerait quasiment l'islamo-gauchisme, sans croire plus d'ailleurs à l'islamo-gauchisme qu'il croyait au survivantisme à l'origine, puisque finalement c'est par intérêt et par snobisme que un jour il est royaliste et que l'autre jour il est à l'autre bout de l'échiquier politique.
C'est une des multiples pistes de votre roman pour essayer de trouver qui est l'assassin.
Voilà, qui l'a assassiné et est-ce que ce serait pas finalement un jeune commando de survivantistes qui, le croisant par hasard dans la rue, lui aurait foutu un coup de
Square Montolon, non loin de la résidence de Sanson, lequel avait guillotiné Louis XVI.
Absolument.
Donc, allez savoir si c'est pas une vengeance.
Donc, on voit bien quand même que tout est subliminal.
Je pense qu'en tant que commissaire de police, vous savez bien que tout est subliminal.
Vous savez, on a l'habitude d'aller au plus profond des âmes. Nous, c'était notre métier.
Voilà. Mais là, vous avez donc vu que les âmes étaient parfois très noires, effectivement.
Très noires, très noires. C'est souvent le cas. Hein.
Oui.
Des âmes vraiment blanches, on n'en a pas rencontré beaucoup.
En tant que commissaire, ceci dit, c'est heureux.
Oui, tout à fait. Mais ce que je voulais dire, c'est que tout est subliminal dans ce livre. Que personne ne s'y trompe, il s'agit d'un roman policier, mais tout concerne Frédéric Rouvillois.
Tout concerne Frédéric Rouvillois, c'est-à-dire tout concerne des choses qu'il a, que j'ai vues, que j'ai rencontrées, qui parfois m'ont terrifié, qui a d'autres fois m'ont amusé, mais effectivement, voilà. Mais bon, je crois que tout auteur de roman est non seulement le héros de son roman, mais aussi, en un sens, beaucoup des personnages qu'il fait intervenir.
Cet intérêt pour la monarchie, c'est quand même un peu du Frédéric Rouvillois, c'est quelque chose.
Ah, mais oui, bien sûr, tout à fait.
On peut l'assumer. Donc, c'est pas si subliminal que ça. En fin de compte, c'est assez facile à lire. C'est assez facile. Vous êtes très transparent, enfin, qu'on vous allez avoir du mal à vous en sortir.
Vous
voyez. Oui. On va réunir assez d'éléments à charge à votre rencontre.
Ouais, tout à fait. C'est un livre qu'on a envie de relire une fois qu'on l'a lu une première fois. Et c'est en ce sens que je vous le dis franchement, il est bon, quoi. Parce que quand on l'a lu et quand on a la clé, enfin, de cette énigme, on se dit, j'aurais dû y penser plus tôt parce que c'était quand même assez clair dès le début peut-être, et j'ai envie de le relire pour, maintenant que je sais qui est l'assassin, j'ai envie de le relire pour mieux profiter du livre et peut-être en tirer toutes les subtilités, parce qu'effectivement c'est un livre à tiroir. Là, on vient de parler du tiroir royaliste, mais c'est effectivement une des manières de lire aussi votre roman, qui est aussi autre tiroir, qui est quand même une critique du monde universitaire, j'ai l'impression. Mais au-delà du monde universitaire, c'est quand même aussi une critique du monde, j'allais dire, de la bourgeoisie, du monde un peu des riches, quoi. Alors, je ne veux pas tomber dans un travers de lutte des classes, mais c'est vrai que tous vos personnages, ils ne gagnent pas le SMIC. Hein. Vous parliez des professeurs, mais en dehors d'eux, tous les autres, ils sont plutôt, c'est plutôt du haut de gamme. Haut de gamme intellectuel, c'est les gens qui sont éduqués et qui sont peut-être, légèrement peut-être, méprisants pour ce qui ne fait pas partie de leur monde, et en particulier ce fameux commissaire Lohmann et son inséparable capitaine Morin.
Oui, oui, effectivement. Voilà.
Il y a un problème de lutte des classes, quoi, je veux dire, dans votre livre.
Oui, enfin, c'est pas ça que j'ai voulu classes, faire, hein. Si vous voulez. Mais il y a effectivement des salauds de riches. Hein, c'est clair que, de même qu'on dit qu'il y a, voilà, c'est le salaud de pauvre de Jean Gabin dans La Traversée de Paris. Là, effectivement, il y a quelques salauds de riches. Tous les riches ne sont pas épouvantables, mais effectivement.
Ah, bah, dans votre livre, oui, quand même.
Certains sont assez gratuits.
Si, quand même. Dans votre livre, c'est assez simple. Tous les riches sont insupportables.
Oui, enfin, c'est pas
indulgent à votre vous-même, parce que là, franchement, dans le livre, tous les gens qui, tous les personnages que vous décrivez sont tous très instruits, très bien élevés, et ils sont tous jaloux les uns des autres un petit peu. C'est un monde
oui,
un peu difficile.
Mais par exemple, il y a un personnage. Qui est un prof de droit, qui perd un peu la boule, qui est un petit peu alzheimérien sur les bords, et qui est marié avec une psychanalyste célèbre, etc. Lui, il est plutôt, c'est un riche sympathique, c'est un collectionneur, c'est un type qui est plutôt bien, qui est pas très, qui est pas génial, mais qui est plutôt assez sympathique. Il y en a quelques autres comme ça. Enfin, c'est, mais bon, de fait, là encore, c'est pas parce qu'on est intelligent qu'on est sympa, et c'est pas parce qu'on est riche qu'on n'est pas un salaud. Ça, c'est
sûr. Absolument. Mais alors, il y a un autre personnage que moi j'aime beaucoup, c'est le commissaire Lohmann. Bon, parce que lui, il sort un petit peu de l'ordinaire. Je dis pas qu'on en a pas connu des comme ça, mais enfin, c'est un grand balèze qui mange avec les doigts. Qui fume le cigare. C'est un petit peu l'éléphant dans le magasin de porcelaine.
Alors éclairez-moi, est-ce que vous n'avez pas voulu évoquer le commissaire du film M. le Maudit?
Ben voilà, vous avez deviné, c'est très bien, tout à fait.
Qui pour moi est un chef-d'œuvre. Hein,
absolument,
c'est extraordinaire.
Pareil.
Dans ce film, il ressort. Je me suis dit, c'est pas possible, il s'est inspiré de ce personnage-là, qui est un peu truculent, etc., mais qui est d'une redoutable efficacité.
Oui, oui.
Quand même,
c'est le Lohmann de mon roman, c'est le Lohmann du chef-d'œuvre de Fritz Lang. Et effectivement, j'ai essayé de.
Avec des personnages terribles aussi. Hein,
ah oui, qui sont absolument terrifiants. Et effectivement, mon bonhomme, effectivement, il est un peu gros, il fume, il est un peu débraillé. Donc, comme le personnage de Fritz Lang. Et pour autant, il a une science affûtée, effectivement. Et il ne se laisse pas compter par les gens qui l'en fassent.
Il fait un peu tâche quand même dans le monde des universitaires.
Oui, mais il est sympathique, le commissaire.
Oui, il fait un peu tâche, mais voilà, c'est quand même c'est une tâche intelligente. Et,
ah
voilà,
bah tout à fait, oui, bien sûr. Oui, oui, oui.
Pour laquelle j'ai effectivement toute la sympathie qu'il faut.
L'impression que vous avez un peu de tendresse pour les policiers quand même, quelque part.
Ah bah oui, parce que je sais très bien le travail qu'ils font. En outre, pour rien vous cacher, je sais que mon bouquin correspond pas du tout à la réalité, effectivement, ni de la procédure pénale, ni de ce qui se passe dans les services de police judiciaire et autres. Mais je l'ai fait lire à un de mes meilleurs amis qui est lui aussi commissaire et qui a beaucoup aimé le bouquin et qui voilà, c'est un peu en pensant à lui et à ce qu'il nous raconte de ses travaux, notamment dans le quartier nord de Marseille, que j'ai écrit ce livre avec effectivement une tendresse et une admiration pour ce que vous pouvez faire.
Vous avez un ami commissaire, c'est déjà pas mal, quoi.
Je serai libéré.
Il en sera tenu compte.
On en tiendra compte. Maintenant, effectivement, on se détache complètement de la procédure pénale dans votre livre, et moi j'ai trouvé ça plutôt sympathique parce que la procédure pénale, elle est imbuvable, plus personne n'y comprend rien, peut-être les professeurs de droit pénal et encore, je sais pas, mais c'est plutôt bien d'imaginer une enquête policière qui se fasse débarrasser des contraintes de la procédure pénale.
Si vous voulez, sur un plan littéraire et narratif, je crois que si on veut suivre au pied de la lettre la procédure pénale, on n'y arrive plus du tout.
Et puis c'est pas intéressant.
C'est pas très intéressant. Enfin, je pense qu'on pourrait le faire si vous l'aimez. Ça rendrait beaucoup
trop
plus compliqué ce qu'on raconte.
Bien sûr.
Et finalement, beaucoup moins amusant pour le lecteur, parce que l'objectif, c'est quand même aussi, évidemment, de régler des comptes avec certains types pas très sympathiques, mais aussi d'intéresser le lecteur à ce petit monde de l'université et à le faire lire un roman, un polar un petit peu.
Voilà, ça reste une fiction. Ça reste une fiction.
C'est
toute
ça,
la différence
tout à fait, oui.
Qu'il y a entre la réalité et puis
bien
la
sûr.
Fiction. La fiction, c'est un petit peu une utopie. C'est quand même quelque chose qui vous est cher, je crois, le monde de l'utopie. Est-ce qu'on ne fait pas progresser les choses avec l'utopie?
Moi, je pense qu'on les fait pas progresser. Au contraire, je pense que l'utopie c'est l'une des pires menaces qui pèse sur le genre humain et qui est au cœur d'une très grande partie des problèmes que nous connaissons et que nous connaissons depuis longtemps. Je crois que au fond le XXe siècle, c'est le siècle de l'utopie et du totalitarisme et de la conjonction entre les deux. Je pense que tous les systèmes totalitaires du XXe siècle, j'ai écrit un bouquin sur l'utopie et le nazisme notamment à ce propos, sont la combinaison des deux. Et donc voilà, j'ai pas du tout voulu écrire une utopie. À la limite, j'ai déjà écrit il y a quelques années une dystopie qui s'appelait Imagine, donc un roman qui décrivait ce que pourrait devenir au pire notre monde dans les années 2020 et quelques.
On y est.
Mais voilà, ça n'est pas, on y est, malheureusement, et pas mal de choses que j'avais imaginées dans ce livre se sont réalisées. Mais voilà, là, c'est pas du tout une utopie, je me suis servi effectivement de la structure du roman policier que je trouve très amusante et distrayante pour dire des choses qui sont des choses personnelles et des choses politiques qui me tiennent
à cœur.
C'est
parce que vous n'avez pas vu venir la perversion du policier. Vous avez vu la perversion de sa question ?
Oui,
s'il emploie le mot utopie, c'est parce qu'il sait très bien qu'au fond de lui-même, vous avez écrit quelque chose sur l'utopie. Et en fin de compte, en vous posant la question, vous avez vu, vous êtes obligé d'inverser, etc. Comme quoi, vous voyez qu'on maîtrise peut-être pas très bien la procédure pénale, nous, puisqu'on a été un peu débordé par l'actualité de la procédure, mais on a conservé au fond de nous-mêmes ce qui faisait tout l'attrait du policier, c'est-à-dire un grand vice de l'intelligence. Vous voyez, à chaque fois,
on connaît un petit peu la réponse. Et en fait, quand on pose des questions, on s'attend à ce que le gardien à vue nous mente. Et s'il nous ment, on on sait qu'on ne s'est pas trompé et que c'est donc lui le coupable. Quoi. Donc c'est pour ça, je voulais savoir si vous étiez l'auteur de cet homicide que vous décrivez.
Mais vous savez, à ce propos, la série donc, de romans policiers que j'ai inauguré, hein, que j'ai eu la chance d'inaugurer à la Nouvelle Librairie, s'appelle Crime et Châtiment. Et dans Crime et Châtiment, vous rappelez le rôle du juge d'instruction qui va interroger finalement le suspect, la manière dont il l'interroge, et qui me rappelle un petit peu ce que vous avez essayé de faire avec moi à l'instant.
Nous sommes de grands pervers.
Voilà. Vous savez qu'on passait même tirer les verres du nez jusqu'à ce qu'effectivement il n'y ait plus de nez quasiment.
Mais vous savez qu'on passait même des concours pour ça des fois. Mais c'était par contre, on peut le dire, nous un métier passionnant. Ah ça oui. nous a passionné le métier de policier avec cette immersion dans le monde. Était extraordinaire. Moi, je sais que toutes les enquêtes criminelles que j'ai eu à mener, même quand j'étais au stup, et pareil, vous êtes en immersion dans le monde réel, mais avec toujours cette capacité de prendre du recul et de l'analyse qui est absolument extraordinaire. Au terme de 40 ou 35 ans, on se dit que c'était une vie qui valait la peine d'être vécue. Monsieur Rouvillois, écoutez, on était très heureux de vous accueillir dans ce cadre un peu particulier, hein, sur la place Montmartre, qui peut-être un jour sera le lieu d'un de vos futurs... futur roman policier, parce qu'il se passe aussi des tas de choses ici très particulières. Donc on sait maintenant pourquoi vous vous promeniez un fin juin vers 7h du matin, Square Montholon. On invite tous les auditeurs qui, je l'espère, deviendront très vite des lecteurs, à se procurer ce livre, Un mauvais maître, aux éditions La Nouvelle Librairie. C'est ça, dans la collection que vous inaugurez, donc Crime et Châtiment.
Pour le prix modique de 16,90 €.
Oui, c'est commissaire.
On en a pour son argent. Et vous allez récidiver, bien sûr.
Oui, je suis en train de...
Comme tous les criminels, vous allez récidiver.
Voilà, absolument, c'est je ça. Reviens sur les lieux du crime. D'accord. Et avec le commissaire Grassouillet et sa charmante collaboratrice. Mais cette fois, non pas dans le milieu des facs de droit, mais dans le milieu de l'art contemporain.
Qui n'est pas mieux que le milieu des professeurs.
Non, qui est même plutôt pire.
C'est pire encore. Ouais. Eh ben, d'accord. Parfait.
J'espère qu'on vous recevra pour le prochain livre.
Si Dieu le veut.
Voilà, chers auditeurs de l'Idéal Média. Je dis bien idéal parce que j'ai vu que quelqu'un avait dit on devrait dire idéal plutôt que idéal, tellement c'est idéal. Je vous invite donc à lire ce livre et puis je vous dis à bientôt.
Le documentaire Chemin de France, présenté par Jean-Baptiste Noé et réalisé par Franck Martin, a rejoint la nouvelle plateforme associative VOD France, qui veut soutenir et mettre en valeur les productions indépendantes. En 4 volets, vous allez pouvoir voyager et entendre des artisans s'exprimer. Un format d'émission libre et spontané.
Nous allons vous accompagner sur les chemins de France.
C'est à Bonneval que le premier épisode commence. Jean-Baptiste va sillonner la région pour partir à la découverte d'artisans.
Donc nous sommes avec Yves qui collectionne des tracteurs.
Une rencontre avec Franck, un artisan vannier qui nous partage sa passion pour l'art de la vannerie. Avec Emmanuel, un agriculteur et microbrasseur. Une autre rencontre, atypique, avec Yves et Laurent, collectionneurs et amoureux de vieux tracteurs. Une balade en calèche avec Patrice. Jean-Baptiste va aussi passer à l'ancien prieuré de Marmoutier, forteresse isolée se dressant au milieu des champs de blé. Une nouvelle étape gastronomique avec la fameuse terrine bonnevalaise, élaborée par la confrérie des Fêlés. Sébastien le caviste va déguster avec Jean-Baptiste quelques vins du Val-de-Loire pour accompagner les repas et les grillades. Et pour finir, Marie-Thérèse vous présentera sa production de fromage au lait de chèvre. La série Chemin de France continue avec un deuxième documentaire où Jean-Baptiste Noé rencontre Thomas Blonsky, le maire de la petite commune de Chapelle-Royale, un petit village de la région centre, aux portes du Perche, peuplé de 600 habitants. Ce maire, contre l'avis général, a pris le pari de réintroduire des commerces de proximité et des services pour redonner de la vie à son village et lutter contre la désertification du monde rural.
On m'a dit, mais Thomas, c'est pas viable. Ça fonctionne depuis 10 ans.
La série Chemin de France propose aussi un troisième documentaire où Jean-Baptiste enquête sur le terroir. De la terre jusqu'à l'assiette, avec une escapade gourmande avec le chef Benoît Cello. C'est dans le fameux restaurant de Chartres, le Grand Monarque, que Jean-Baptiste rencontre le chef. La mission est de cuisiner un poulet et le transformer en plat de fête. Dans la même journée, le poulet passe du producteur au cuisinier et dans votre assiette. Visitons la ferme, visitons le potager de Diane, du local, de la tradition, du terroir. La série Chemin de France est aussi un quatrième numéro, à la rencontre d'artisans d'art. 3 découvertes. Un atelier réputé pour leurs vitraux, une forge, un tailleur de pierre. Vous l'avez compris, ces épisodes sont des voyages à la découverte des richesses du patrimoine historique de nos régions. J'espère que cette présentation vous a donné envie de visionner cette série de documentaires. Si vous souhaitez passer un bon moment ou simplement aider l'Institut des Libertés, tout est disponible en VOD, en DVD, ou ça, sur vodfrance.com. Le lien se trouve en description YouTube sous la vidéo. Le site est une initiative de l'association Studio Phocéen, qui depuis 2007 propose des activités pour les passionnés du cinéma et de l'audiovisuel. Merci à vous et à bientôt.